Merci à tous ceux qui se joignent à nous un peu partout au Québec. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur des ondes cellulaires ou sur Internet. Nous allons justement parler de ces ondes parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la technologie 5G. Sans doute, il y a des articles ici et là qui nous vendent ses mérites, le fait qu'on va pouvoir avoir des maisons de plus en plus intelligentes. On va être des technologues, finalement, des êtres humains. L'homo techno, c'est vraiment ça. Ça va vraiment être ça. On va avoir ça, des chips dans notre corps. Et tout le monde nous vend ces mérites-là. Moi, parce que je vous le dis, je suis toujours un peu sceptique et je crains toujours l'impact des technologies et des affaires qu'on ne connaît pas sur la santé. Parce qu'en général, on nous dit « Ah, ça, inquiétez-vous pas », puis 5, 10 ans, 20 ans plus tard, on apprend que ça nous a donné le cancer. Alors, tu sais, il faut savoir ce qu'il en est. Et peut-on choisir ou non? Mais dans le cas de la technologie 5G, on nous a pas vraiment demandé notre avis. Puis ça, j'aille donc bien ça quand on me demande pas mon avis, puis qu'on m'impose des choses. Ça, c'est comme les compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Là, c'est assez controversé, la 5G. C'est une technologie de téléphonie mobile qui va être déployée à travers le monde. Donc, au Québec, on y échappe pas. Ça soulève beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions parce qu'on connaît très peu son impact. Et ce qu'on sait pour l'instant, certaines personnes, en tout cas, semblent nous indiquer qu'il y a des risques pour la santé. Il y a d'ailleurs une manifestation qui va avoir lieu ce samedi, donc le 25, à Montréal. C'est une manifestation mondiale contre la 5G. Chez nous, on a des spécialistes, entre autres Paul Héroux qui est avec moi. Il est professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université McGill. Il enseigne la toxicologie et les effets sanitaires des ondes électromagnétiques. J'adore vous avoir à l'émission, Paul. Merci beaucoup d'être là.
Plaisir.
Parce que vous êtes très au courant de ce dont il faut se méfier. La 5G fait partie de ça?
Oui, la 5G fait partie de ça et on peut évaluer les impacts futurs de la 5G à partir de l'expérience qu'on a déjà vécue avec des autres générations comme 1, 2, 3 et 4.
Pour vous, là, si je vous dis technologie 5G, pourquoi faut-il s'en méfier?
Bien, en réalité, la technologie est destinée simplement à augmenter le flux de données. Mais pour arriver à ça, il faut augmenter l'exposition des utilisateurs et les expositions vont devenir également beaucoup plus transitoires, c'est-à-dire que ça va être un peu plus comme un laser que comme une diffusion dans toutes les directions. Donc, les nouvelles caractéristiques rendent ça plus risqué pour l'humain et lorsqu'on va arriver aux ondes millimétriques, les pauvres insectes qui peuvent arriver à proximité de ces antennes-là vont être extrêmement malheureux.
On parle de quel type d'onde, en fait?
En fait, ce n'est pas des ondes qui sont vraiment différentes de celles d'autrefois, mais dans le 5G, on inclut beaucoup de fréquences jusqu'à pratiquement 80 gigahertz. Ça augmente la rapidité de téléchargement des données, effectivement, mais ça rend les longueurs d'onde comparables à celles d'une abeille, par exemple.
Donc, pour qu'on comprenne, là, les gens qui nous écoutent, pourquoi ils devraient s'inquiéter?
En réalité, c'est que l'expérience du passé nous montre que si on vit à 500 mètres d'une tour de cellulaire, notre santé est altérée.
De quelle façon?
Le cancer et une variété d'autres symptômes qui sont indicatifs, finalement, de pathologies potentielles à long terme. Donc, on parle d'effets neurologiques, on parle d'effets sur le métabolisme, on parle d'effets sur la reproduction.
Et ça, c'est documenté, ça, Paul Héroux?
Ça, c'est bien documenté. Et une autre chose qui est de plus en plus documentée, c'est que si on plante une antenne 5G devant votre maison, sa valeur va diminuer de 10 % et possiblement dans l'avenir de 20 %
Ah oui?
Oui, parce que de plus en plus, les gens sont conscients de la réalité sanitaire reliée aux ondes électromagnétiques. Donc, le marché répond à ces questions-là. En Californie, dans les quartiers affluents, il y en a beaucoup qui ont refusé la 5G pour cette raison-là.
Mais je disais que la ville de Bruxelles a refusé le déploiement de la technologie 5G parce qu'on dit qu'il y a des doses de radiation qui sont beaucoup trop élevées, on ne veut pas ça chez nous.
Oui, effectivement, pour des raisons techniques, il faut avoir des doses de radiation plus élevées. Les antennes sont également plus proches. Donc, tous ces facteurs-là font que les gens de Bruxelles, les gestionnaires sont bien informés là-bas, c'est l'Union européenne, ils se sont dit, nous, on ne veut pas prendre de risques avec ça.
Incroyable. En même temps, puis je voulais qu'on ait un journaliste techno pour nous dire un peu quand même à quoi sert la 5G dans la technologie. Puis donc, on a pensé au journaliste Alain McKenna. Bonjour, Alain.
Bonjour.
La technologie 5G, quand même, on nous la vante aussi beaucoup, là.
Ben oui, ben c'est perçu comme plus qu'une évolution des réseaux sans fil. C'est perçu vraiment comme une nouvelle une génération, même une révolution à la limite là, dans la quantité de services qui pourraient être déployés.
Ouais.
On compare ça un peu à quand les premiers réseaux cellulaires avec données mobiles ont vu le jour, avec le premier iPhone, entre autres. Ça a donné naissance à toute une économie qu'on a appelée l'économie des applications mobiles. C'est-à-dire, à partir de là, sont nés des services comme Uber, Spotify, des choses comme ça qui n'existaient pas vraiment avant. Ce qu'on voit avec la prochaine génération de réseaux sans fil, qu'on appelle la cinquième génération, d'où le nom 5G, là, c'est une transition vers une nouvelle économie basée sur des services qu'on n'a pas encore vraiment pu voir, donc qu'on peut juste imaginer en ce moment. On parle beaucoup d'Internet des objets, donc des objets connectés, toute l'infrastructure dans les grandes villes qui pourra avoir une connexion machine à machine, en fait, même, et tout ce qu'on pense d'autonomie, d'automatisation et de robotisation, des choses comme ça.
Entre autres, les voitures autonomes, ça marche grâce à la 5G. Ça pourrait pas marcher avec, ça pourrait marcher avec la 4G, là.
Ben, ça pourrait marcher en ce moment même, mais il y a des applications qui pourraient être un peu plus poussées. Un des gros atouts vantés par les fabricants d'équipements 5G, c'est qu'il y aura pas de ce qu'on appelle dans le jargon de l'industrie, de la latence, c'est-à-dire que le délai entre le moment où on envoie une information et elle est reçue à l'autre bout du réseau sera de quelques fractions, quelques milliers de secondes seulement, ce qui permet de quasiment instantanément d'un bout à l'autre du réseau là, et de donner des commandes à des robots ou à des engins autonomes sans être sur place. Là. Puis effectivement, la voiture autonome est un des meilleurs exemples de ça.
Ouais. Donc, c'est bien ce que Paul Héroux disait tout à l'heure, c'est que ça va augmenter le volume des données puis la rapidité aussi. Paul, qu'est-ce que vous pourriez rajouter là, par rapport à ce qu'Alain vient de nous dire?
Relativement aux voitures autonomes, c'est faux de dire que le 5G ou même une connexion à réseau est nécessaire pour une voiture autonome. En réalité, les voitures autonomes peuvent très bien être basées sur de la vision et sur un scan de laser. Ces voitures-là sont en développement. Donc, enrichir les voitures autonomes avec la 5G ou même avec une connexion à Internet, c'est un enrichissement qui n'est pas nécessaire et qui, en fait, restreindrait considérablement l'application de ces véhicules-là uniquement à des endroits où ils sont très, très, très câblés.
Ouais.
Donc, l'industrie a fait miroiter les voitures autonomes, la chirurgie à distance, toutes des applications qui, en réalité, ne sont pas reliées à la 5G. De plus, on a dit que
les robots intelligents.
Oui. La latence a été diminuée de 50 millisecondes à 1 milliseconde.
La latence, expliquez ce que
c'est. C'est le temps entre une commande et la réponse. Mm-hmm. Mais finalement, ce qu'on observe en pratique, ça a seulement baissé de 50 à 25 millisecondes. Pour les utilisateurs qui, de toute façon, ont des réflexes de 150 millisecondes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pour les robots dans une industrie, là, ça a de l'importance. S'il y en a beaucoup de robots mobiles, ils doivent pouvoir se parler très vite. Mais pour les applications humaines, c'est très douteux que ça a un intérêt.
Donc, finalement, c'est pour toute la technologie de l'automate, là, ce qu'on appelle les robots intelligents, les usines automatisées. C'est que finalement, on veut remplacer l'humain par la machine. Ceux qui en profiteront, ce sont les grandes corporations qui ont des usines.
Mais en réalité, pour certaines applications...
Qui va bénéficier de ça, là?
Ben, effectivement, les usines. Ouais. Mais ceux qui vont bénéficier de ça, c'est ceux qui veulent vous vendre un nouveau téléphone cellulaire l'an prochain. L'industrie a une caractéristique, c'est que s'ils n'innovent pas et s'ils ne vous font pas acheter, ils doivent fermer des usines. Donc, il y a un genre de...
On crée le besoin.
C'est pas les gens qui réclamaient la 5G, c'était une possibilité industrielle que l'industrie, en quelque sorte, nous pousse à adopter.
Mm-hmm.
Et à cause des effets sanitaires, moi, je pense que c'est une très mauvaise idée parce que l'expérience du passé nous montre que ces radiations-là, la FCC et le CRTC et le Code 6, nous ont caché des impacts sur la santé.
En même temps, bon, vous parliez de l'Europe, on parlait du fait qu'à Bruxelles, ils ont décidé de refuser le déploiement de la 5G, mais il y a beaucoup de pays d'Europe qui ont commencé à le faire quand même. Donc, j'imagine qu'eux aussi ont évalué les risques puis ont décidé d'aller de l'avant.
Oui.
Ou il y a des raisons politiques et pécuniaires derrière ça.
Mais en réalité, c'est des raisons sanitaires qui les poussent à faire ça. Et également, on sait qu'il y a une population de gens électrosensibles qui ne peuvent plus pénétrer dans les milieux où il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques. Ces gens-là doivent se retirer des sociétés. Et dans plusieurs pays d'Europe, c'est reconnu comme une chose que les employeurs doivent compenser. Lorsqu'ils ont un employé qui est électrosensible, ils doivent lui donner un poste de travail qui le satisfait.
Mm-hmm. Mais en même temps, le déploiement est commencé, là.
Bien, l'industrie a tendance à exagérer ses succès pour, en quelque sorte, créer le succès par la publicité.
Ah, fait que vous dites pas tant que ça, finalement?
Pas tant que ça.
Comme nous, au Québec, là, je pense qu'il y a eu, ça a commencé l'année dernière. Alain, t'es au courant un peu de ça? Est-ce que ça a été déployé chez nous, d'après toi?
La 5G, il y a des réseaux qui ont été mis en ligne par Rogers dans les dernières semaines, ça fait très longtemps. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun appareil 5G qui est encore vendu au Canada. Donc, les réseaux sont là, mais il n'y a pas moyen d'y accéder. Mm-hmm. Et ce ne sera pas le cas encore avant plusieurs mois, là. Évidemment, on parle de 5G comme d'une finalité technologique, mais c'est une évolution aussi, c'est-à-dire que les premières générations n'ont pas les caractéristiques techniques idéales, disons, qu'on vante, comme justement ce qu'on parle depuis tantôt, la fameuse latence, le fameux temps de réaction d'une fraction de 3 à 5 millisecondes, entre autres.
OK. C'est intéressant. Oui.
Oui. Alors, ça va vers ça. Puis, de toute façon, évidemment, ces réseaux-là sont, pour le moment, reposent sur des fréquences qui sont extrêmement limitées aussi. J'aimerais ça, M. Héroux, si vous pouvez m'expliquer une chose que je vois, parce que, bon, évidemment, j'ai fait de la recherche sur les études qui ont été faites par rapport aux impacts sur la santé de la 5G. Puis, une chose que je vois, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a personne qui a eu une étude concluante sur les effets néfastes des ondes 5G. Pour une raison bien simple, c'est que ces ondes-là, en ce moment, peuvent être coupées. C'est-à-dire littéralement intercepté par la peau, et on se demande comment ça se peut avoir un effet sur la santé si, si la peau humaine peut bloquer ces ondes-là.
En réalité, la peau humaine ne bloque pas ces ondes-là. C'est simplement que la pénétration est plus faible. En d'autres termes, ça va pénétrer de quelques millimètres. Ça veut dire ça, que l'énergie d'irradiation va être diffusée dans une couche extrêmement mince. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'énergie qui va être dissipée dans très peu du corps humain. Si bien que la dose dans ces tissus-là, et la peau, vous croyez peut-être que c'est inerte, mais en réalité, la peau, c'est très vivant. Il y a du sang qui circule à l'intérieur, il y a des cellules qui vivent là-dedans.
C'est le plus grand organe du corps.
C'est le plus grand organe du corps. Donc, c'est un bobard de dire que, inquiétez-vous pas, c'est bloqué par la peau. C'est absolument inexact. Et les épidémiologistes craignent qu'il y ait des augmentations d'incidence de cataracte et de cancer de la peau. C'est une des choses qui est très discutée. Mais naturellement, on ne peut pas savoir avant d'avoir déployé. Donc, il faut se retourner vers le passé, les autres études sur les ondes électromagnétiques qui, elles, parlent de cancérogénicité et de beaucoup d'autres maladies chroniques, principalement neurologiques et de reproduction.
Il y a plusieurs recherches, en tout cas, que vous avez étudiées. Il y en a une aussi de l'Agence internationale de recherche sur le cancer qui est à Lyon, en France, qui va reviser sa classification des radiations électromagnétiques à la suite, justement, de résultats d'autres études. Et c'est possible, tout à fait possible, que ces ondes-là qui viennent du 5G soient maintenant considérées comme cancérigènes de classe 1. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Paul Héroux?
Dans le passé, l'Agence internationale de recherche sur le cancer disait que c'était classe 2B. Donc, possiblement cancérigène chez l'humain. Et ils avaient une classification faible parce qu'ils disaient ne pas avoir suffisamment d'évidence sur des modèles animaux. Mais là, maintenant, on a deux modèles animaux extrêmement convaincants, celui du National Toxicology Program, qui a dit les ondes cellulaires sont nettement cancérigènes, et le rapport du Ramazzini Institute de Bologne en Italie, qui dit la même chose, mais relativement autour des cellulaires. Si bien que si on est à 500 mètres d'une tour de cellulaire, notre santé n'est pas la même qu'elle serait autrement. Donc, en plus des études de Chu, de Repaccioli, de Lurchell, ça fait beaucoup de grosses études qui confirment la cancérogénicité de ces ondes-là. Et le cancer, c'est une chose, mais la santé est plus large que ça.
Oui, tout à fait. Il y a certains symptômes que les gens peuvent ressentir. Il y a des gens plus électrosensibles que d'autres aussi. Je pense que c'est de plus en plus documenté. On va s'arrêter ici, très courte pause. Merci beaucoup, Alain McKenna, de nous avoir précisé quelques données. Alain est journaliste techno pour lesaffaires.com. On va s'arrêter ici. Je sais qu'il y a Steve qui veut nous parler, qui est aussi un spécialiste en santé et sécurité au travail, qui va nous parler tout de suite après la pause. Puis bien sûr, vous pouvez nous joindre et pour nous dire si ça vous inquiète, l'impact de cette technologie 5G sur votre santé, cette technologie dont on nous vante les mérites pour toutes sortes de raisons, vous avez compris. Mais on ne nous a comme pas demandé notre avis là-dessus. En voulez-vous une tour de cellulaire pas loin de chez vous? Déjà, qui ont changé les ampoules pour nous mettre du LED. Moi, j'en ai une en face chez nous. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, j'étais en train de me magasiner des rideaux tellement c'est fort. Il y a plein d'affaires qu'on ne nous demande pas comme ça. C'est juste insupportable. 514-790-9850. Dites-moi si vous vous sentez pareil. 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Oui, Steve, vous voulez nous parler de l'inquiétude que vous pouvez avoir sur l'impact de la technologie 5G sur la santé. C'est notre question. On est en compagnie de Paul Héroux, qui est un spécialiste en toxicologie et en effet sanitaire des ondes électromagnétiques. Vous en savez quoi, vous, Steve? Êtes-vous inquiet?
Ah, absolument. Il y a déjà des dangers, puis le 5G n'est pas encore tout à fait déployé, et il y en a déjà des problèmes. Sur les toitures des édifices en hauteur, par exemple, lorsqu'on a des travaux en hauteur, il y a beaucoup d'édifices où est-ce qu'ils ont des antennes émettrices. Ces antennes-là sont possédées par les compagnies de distribution de réseau Internet. Et il y a toujours des petites pancartes qui avisent les travailleurs de ne pas s'approcher à moins de 3 mètres quand c'est moindrement dangereux.
Ah ouais.
Et à plus de 10 mètres, on ne peut pas s'approcher si les émissions sont moindrement fortes. Tout ça, c'est réglementé par le fédéral. Tout ce qui est communication, c'est le fédéral qui administre cette réglementation-là.
Mm-hmm.
Au Québec, quand on a vérifié l'an passé parce qu'on avait un problème pour les émissions de fréquence sur un hôpital, il n'y avait pas d'inspecteur attitré au Québec pour vérifier les fréquences si les propriétaires émettent
là,
le nombre de fréquences autorisées.
C'est incroyable. Donc, on va mettre une technologie, mais il n'y a pas d'inspecteur qui va vérifier voir si elle est bien installée. C'est ça que vous me dites?
Un exemple encore plus concret, Isabelle.
Ouais.
Si, mettons, j'ai 10 mètres, c'est 30 pieds. Mm. Vérifier en ville des antennes émettrices là, sur le toit des édifices à logement, là, 30 pieds, là, vous êtes sur le trottoir en bas, vous êtes touché. Là. OK? Vous, dans le voisinage, à un moment donné, vous êtes sur votre téléphone, puis là, vous trouvez que votre téléphone maudit qui est slow, puis Internet, ça va pas bien, puis tout ça.
Mm-hmm.
Là, vous appelez votre compagnie d'Internet, puis là, vous dites, « Hey, je suis dans tel secteur, il me semble que depuis une couple de jours, c'est faible. » Bien, eux, sans le dire aux autorités sur les bâtiments où est-ce qu'ils ont des installations, ils vont augmenter la puissance des fréquences.
Ah bon, ben ça va bien.
Fait que si vous êtes déjà dans la zone du 10 mètres, là, qu'il faut vous tenir loin de ça, puis qu'on augmente les puissances sans vous le dire, imaginez, puis c'est pas rien qu'au niveau de la peau puis des yeux. Là.
Tout à fait.
Les cellules dans le cerveau, c'est affecté aussi.
Ouais. Merci beaucoup, Steve. Restez en ligne, on va prendre vos coordonnées. Il a l'air d'être au courant de bien les affaires, ce monsieur. On va parler à Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine, vous êtes inquiète, vous, de l'application, du déploiement du 5G?
Oui, évidemment que je suis inquiète. Ça va un petit peu dans le sens, mon commentaire là, de votre invité précédent. Les tours à logement, il y a énormément, puis je dis tours, ça c'est pas toujours très haut. Je pense à Longueuil, sur le chemin Chambly, quand je traverse, je me rends compte qu'il y a des édifices à logement qui ont peut-être 6 ou 8 étages de haut, qui ont énormément de trucs qui diffusent pour les téléphones cellulaires. Puis les gens qui habitent ces tours à logement-là ou ces complexes immobiliers-là, s'ils sont électrosensibles, ils sont directement en dessous, je me dis... Puis on peut habiter un de ces logements-là, un logement, et le propriétaire décide de louer son toit pour ces antennes-là. Mais gens qui habitent déjà là, qui sont électrosensibles, puis qui ont fait le choix d'habiter dans un endroit où il n'y en a pas trop, on est à la merci de ça. Regardez seulement les clochers d'église.
Ouais.
De plus en plus d'églises louent leurs clochers aux antennes cellulaires aussi. Mais les églises sont en plein milieu des villages, en plein milieu des villes.
Ah ouais, non, mais c'est fascinant. J'étais sur Internet, je regardais de quelle façon on dissimule, parce que là, il semble que la tendance, ça soit de vraiment pas nous le dire, puis de vraiment pas nous prévenir. Merci Marie-Christine. Paul et Rouge, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais sur Internet, on voit aux États-Unis, dans certains États, on met ça même dans certains États du Sud, par exemple. Ils cachent ça dans des cactus. Ils mettent dans... C'est comme si on se creuse la tête pour que ça paraisse pas, que le citoyen soit pas au courant qu'il y ait des antennes.
C'est la tactique idéale. En d'autres termes, ce que vous ne savez pas ne peut pas vous faire mal.
C'est incroyable.
Mais c'est une tactique que n'importe quelle entreprise utiliserait pour essayer d'atténuer ses difficultés légales ou de relations publiques.
Mais le gouvernement ne va pas demander, par exemple, exiger une carte de déploiement de la 5G. Moi, je suis ministre de, mettons, la sécurité publique.
Il y en a une.
Ou de la santé. Il y a une carte? Il va y avoir
une carte?
Moi, je vais pouvoir la regarder?
Oui,
la carte?
Vous allez pouvoir la regarder.
Puis je peux-tu savoir si j'ai une antenne pas loin?
Oui.
Puis je peux-tu me plaindre si j'ai une antenne pas loin?
Ils vont vous dire que c'est autorisé par le Code 6.
Ça va être comme les compteurs intelligents d'hydro, ça. Ah,
exactement.
Ben là,
c'est
mais c'est
imposé.
Trop tard. Voilà.
Vous n'avez pas le choix d'être irradié. C'est, en anglais, je dis ça, global microwaving. On va appliquer des micro-ondes ultimement à la population entière de la planète. On va tous être pareil. Je ne sais pas comment on va être, mais on va être pareil.
Mon Dieu, il y a Gilles qui veut nous parler de ça aussi. Gilles, êtes-vous inquiet? Hey, moi, j'en reviens pas. Là. Chaque fois qu'on parle de ça, Gilles, je capote. Êtes-vous comme moi?
Ben moi, je capote parce que, disons que moi, j'ai un stimulateur cardiaque,
ouf, ouais.
Communément appelé un pacemaker.
Mm-hmm.
Et j'aimerais savoir, avec votre invité, si ça peut avoir un effet sur le stimulateur cardiaque, les ondes 5G.
Ça dépend de l'âge de votre stimulateur. En d'autres termes, ça, c'est des problèmes de compatibilité électromagnétique. En d'autres termes, un appareil affecte un autre appareil. Dans ce cas-ci, votre stimulateur cardiaque. On a essayé, par des techniques de blindage et d'ingénierie, de régler ces problèmes-là. Il y en a eu dans le passé. Ça dépend de l'âge de votre stimulateur, ça dépend de ses caractéristiques, mais il y a beaucoup d'efforts faits par les ingénieurs pour éliminer ces problèmes-là spécifiquement.
Mm-hmm. Alors voilà. Michel, bonjour. Très rapidement, êtes-vous inquiet de l'impact du déploiement de la technologie 5G?
En réalité, j'ai une question pour vous. J'ai un routeur intérieur qui vient de me changer dans la maison. J'ai maintenant sur mon téléphone deux réseaux, le réseau régulier et un réseau 5G. L'autre jour, j'avais des problèmes de connectivité. L'employé m'a dit, bien, connectez-vous sur le réseau 5G de votre routeur. Est-ce que c'est aussi dangereux que les tours, ces choses-là?
Bien, je doute que vous ayez un routeur 5G dans votre maison. C'est probablement un routeur à 5 GHz. C'est pas la même chose que la cinquième génération. C'est pas du tout la même chose. C'est une fréquence auquel vous faites référence. Mais le 5G, c'est une nouvelle génération. Donc, le G veut dire génération, ne veut pas dire gigahertz.
Mm-hmm. Voilà, je pense que ça vous rassure un peu. Même si avoir des routeurs tout le temps ouverts, 24 heures sur 24, vous en pensez quoi, vous, Paul? Ben,
dans les écoles, c'est absolument inadmissible d'exposer nos enfants à des radiations qui ont des effets qui, dans des modèles animaux, ont été démontrés comme modifier de manière irréversible la structure du cerveau.
Mais vous l'avez pas chez vous, le Wi-Fi branché tout le temps?
Non, j'ai branché ma maison filaire et j'espère ultimement avoir la fibre optique. La vraie technique pour les télécommunications, c'est la fibre optique qui est 1 million de fois plus vite que le 5G.
Ah ouais. Tu dis qu'on a Nathalie. Bonjour Nathalie, je pense que vous élevez des abeilles. On sait que pour les abeilles, oui. On vous écoute.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
En fait, non, on n'élève pas les abeilles. On a un jardin maraîcher et puis on doit louer des abeilles pour polliniser.
Ah oui, d'accord.
Jardins.
Oui.
Et puis moi, je peux vous dire que quand on passe à côté des ruches avec un téléphone cellulaire allumé, des abeilles, ils deviennent complètement folles. Ils attaquent les appareils cellulaires. On devient. Il s'agit de parler au téléphone, ils nous attaquent la tête. C'est vraiment les téléphones qu'ils attaquent quand ils sont activés ou avec les réseaux. C'est épouvantable, donc je ne peux pas m'imaginer d'augmenter ces gigaoctets-là, là, et puis ce que ça va faire avec les animaux, les abeilles et tout ça. Je vous le dis, ils deviennent dégénérés.
Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, de votre témoignage. Mais tu sais, puis on va terminer là-dessus, Paul Héroux, il va falloir qu'on en reparle, il va falloir que vous soyez un abonné à notre émission parce qu'il faut vraiment qu'on creuse ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce samedi, si ça vous inquiète, il y a la campagne « Stoppons la 5G, vivons sans danger », évidemment. « Stoppons 5G Montréal » vous invite donc à cette manif. C'est une manifestation qui se tiendra partout sur la planète, manifestation mondiale, donc. À Montréal, c'est ce samedi 25 janvier à 13h30. Le point de départ, c'est au Square Phillips, c'est le métro McGill, sortie Union. Je pense qu'il faut s'occuper de nos affaires. Quand on sait qu'il y a plus de 200 experts et médecins d'à peu près une quarantaine de pays qui disent depuis septembre 2017 qu'il faut un moratoire sur le déploiement de la 5G, je pense que là, juste déjà ça, on peut émettre des questions. On est en droit de poser des questions et d'avoir des réponses sans se faire dire « Regarde, inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. » Ben oui, y a-tu quelqu'un qui pense que coller son cellulaire toute la journée comme on le fait, puis le Wi-Fi ouvert dans la maison 24 heures sur 24, puis regardez, je suis comme vous, là, je l'ai aussi, puis je sais que j'ai pas de bon sens. Il va falloir qu'on arrête parce que c'est clair que ça a un impact sur notre santé. Paul Héroux, merci beaucoup de nous tenir au courant de tout ça.
Plaisir.
Prochaine fois que vous venez, on va parler des compteurs intelligents parce que je sais qu'il y a du nouveau dans le dossier aussi. Merci beaucoup, Paul.
Merci.
On va s'arrêter ici tout de suite après la pause pour nous calmer un peu. L'ex-RBO, André Ducharme, est avec nous. Restez là, tout le monde, en entrevue sans filtre.